Mardi 10 avril 2012, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 et accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, contrairement à d'habitude, je dirais que c'est plutôt une petite émission. Donc, on a une entrevue, mais quand même, non la moindre, c'est Besma Boukri qui viendra nous parler de son installation vidéo des résonances qui est présentée à l'établi. On recevra également Anouk Deloche qui va nous parler de l'installation « Tous les oiseaux sont ici » de Cynthia Gérard, qui est présenté à la Grande Galerie de l'œil de poisson. Aujourd'hui, c'est une journée, en tout cas dans le monde des arts visuels, on l'attendait depuis un certain temps, surtout à Québec, puisque c'était le dévoilement de la programmation de la manif d'art 6, Machine, les formes du mouvement, dont le commissariat est effectué par Nicole Gingras, qu'on recevra la semaine prochaine, mais tout de même, je me dévorais d'impatience d'en parler un peu, de savoir qu'est-ce qu'il y en était. Donc, on fera un petit tour là-dessus. Également, il y a les éditions Vue qui ont lancé une série de monographies. Je vais vous parler un peu là, des quatre premiers exemplaires. Oui, j'imagine qu'il fallait que je mette mon S de transition. À tout le moins, si c'est pas le cas, j'en ai fait un et c'était une erreur, mais c'est pas très grave et je suis en train de m'embourber. Alors, je vais plutôt aussi accueillir Raymond Poirier qui nous fera sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Un sujet pour nous titiller.
Mais notamment, on fait des mesures à Montréal pour favoriser la rétention d'artistes, d'ateliers d'artistes dans le quartier du Mainland.
Excellent. Puis, Simon Roy est de retour avec nous cette semaine. Bonjour Simon.
Bonjour Julie. Oui, je m'étais ennuyé de vous autres. Je suis content d'être de retour.
Moi aussi, je m'étais ennuyé. J'avais hâte d'entendre ta douce voix.
Oui, je vous ai trouvé un album assez intéressant cette semaine. C'est une grosse compilation, donc 45 pièces. J'ai pas fait le calcul, la durée totale, mais il y a vraiment énormément de matériel. Donc, une compilation qui est publiée sur Electronic Music, c'est une étiquette qui nous vient de l'Angleterre, donc qui compte déjà plus de 140 albums. Donc, il y a beaucoup de plaisir à voir sur ce label-là, plein de trucs à télécharger de façon gratuite. La compilation s'intitule « Sixth Compilation », donc, comme je vous disais, 45 pièces, vraiment excellent. J'ai eu vraiment de la difficulté à faire le choix pour la sélection audio cette semaine. Donc, je vous ai quand même choisi quatre artistes. Le premier qu'on va entendre, c'est Berger Huron. C'est le pseudonyme de Vincent Bergeron, donc qui vit à Victoriaville. Je vous fais entendre sa pièce « Intention dévorante ». Tout de suite après, on se déplace du côté de l'Australie avec HXDK. C'est pour raccourcir, il évolue sous le nom de Hexakai Decagon. Donc, c'est aussi un fondateur de l'étiquette TBK Netlabel. Donc, un personnage assez intéressant. Je vous fais entendre sa pièce « Sunday Afternoon ». Puis ensuite de ça, on se déplace du côté de du Maryland aux États-Unis avec Inappropriate King Live. J'adore le nom de cet artiste-là qui s'appelle Justin Mark Lloyd. Donc, il a tiré son nom d'une controverse qu'il aurait eu à l'émission Larry King entre Carrie Prejean. C'est une Miss Californie 2009, donc un gros scandale à propos du mariage de même sexe. Donc, j'ai adoré le nom de cet artiste-là.
J'arrive.
Je vous fais entendre sa pièce « Mitochondriaque ». Puis enfin, la dernière pièce, c'est de l'Angleterre, de la ville de Cheltenham. Donc, c'est Longstone, ça aussi, vraiment intéressant. Donc, je vous invite aux auditeurs à télécharger l'album au complet. 45 pièces, ça va vraiment dans tous les sens. Musique expérimentale, électro, musique ambiante, art audio, musique concrète, des drones, free jazz même. Donc, il y a vraiment un peu de tout là-dessus. J'invite les auditeurs à aller voir la page de l'aérospatiale pour pouvoir télécharger tout ça.
Bien, Simon Roy, merci beaucoup pour cette suggestion.
Ça fait plaisir.
Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, t'animes Web Musique dimanche prochain?
Oui, à compter de 20h.
Et voilà. Ben, on s'en va tout de suite en pause audio. On écoute Intention dévorante de Vincent Bergeron. c'était une première pièce de la compilation A Sixth Compilation qui a été produite par Electronic Music. Vous pouvez d'ailleurs trouver les liens pour le téléchargement gratuit sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Et également, les émissions sont disponibles en balado-diffusion. Mon collègue Raymond Poirier se fait plaisir d'entretenir le site Internet. Les communiqués sont là aussi. Et puis, bien entendu, les liens pour sa revue de presse qui s'apprête tout juste à nous faire.
Et on commence, Julie Gagné, du côté de Montréal avec Papier 12 qui s'amorce dans les prochains jours. En fait, la première débutera le 12 avril qui vient. Ça va se poursuivre jusqu'au 15 par la suite. Donc, c'est un événement organisé par l'Association des galeries d'art contemporain. Il vise cette année à peu près 2000 visiteurs pour aller découvrir 1200 œuvres dans 38 galeries et partenaires. Donc, quand même quelque chose d'assez gros. Également, un beau panorama, je pense, de l'art montréalais et de l'art québécois et ontarien, évidemment, qui s'y retrouve. Parmi les artistes dont les œuvres sont exposées et vendues, on parle de Nadia Mir, de Marion Wagschall, de Balint Zacco, Derek Evans, Annie Bayarjon, Martin Boudreau, Raphaël de Groot, René de Rouen, Eliane Excoffier, Adad Anna et même des œuvres du célèbre photographe hongrois André Kertész. Donc, on voit que c'est quand même assez large. C'est un événement, en fait, désormais traditionnel, je pense, du côté de Montréal. Alors, si jamais vous passez par la métropole cette fin de semaine, ça vaudra peut-être la peine d'aller faire un tour donc dans l'une de ces nombreuses galeries.
L'invitation est donc lancée.
Et on reste à Montréal pour la deuxième nouvelle, celle que j'ai lancée en amont. Je trouvais que c'est une mesure quand même assez intéressante. On sait que dans l'arrondissement plateau de Mont-Royal, en fait, le secteur du Mile End notamment, qui est assez rempli d'ateliers d'artistes. En fait, on dit que le secteur Saint-Viateur-Est à Montréal compte à peu près 450 000 pieds carrés occupés par 800 artistes visuels, médiatiques, sonores, interdisciplinaires, des designers, des musiciens, des artisans, travailleurs culturels. Donc vraiment, la sphère artistique au sens large. Et évidemment, on le sait aussi, si on se tient au courant un temps soit peu des réalités du logement à Montréal, eh bien que ça monte beaucoup dans ce secteur-là et que ça devient de plus en plus inaccessible pour les ateliers d'artistes. Et parallèlement, qu'il y a de plus en plus aussi d'entreprises qui reluquent les bureaux et les étages pour en faire des immeubles à bureaux peut-être un peu plus lucratifs qu'actuellement. Alors, l'arrondissement du plateau Mont-Royal a décidé, face à ça, d'imposer un moratoire d'un an sur le développement immobilier dans le secteur pour protéger justement cette petite économie-là. Et de limiter, dans le fond, les possibilités d'achat de grands espaces locatifs pour pouvoir permettre donc à ces gens qui sont pour la plupart travailleurs autonomes, qui ont un petit espace de travail, ben, de le garder, le temps de voir et de réfléchir aux mesures qui pourraient être implantées pour favoriser le maintien des artistes. On estime que c'est un peu la griffe du Mile End et que leur présence est donc souhaitable, voire même nécessaire pour garder l'identité du secteur.
Puis la vitalité aussi, parce qu'on s'entend que des bureaux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens qui font là dans la journée et qui partent le soir. Donc, c'est peut-être lucratif, mais c'est pas très vivant.
Un atelier d'artiste, c'est effectivement peut-être un peu plus vivant qu'un bureau de 9 à 5. Et on fait le saut maintenant, si tu le permets, Julie, vers l'Europe. Je suis tombé sur un sondage assez intéressant. On le sait de plus en plus, les musées, autant que n'importe quelle institution artistique, doit passer par les technologies pour se promouvoir, pour se vendre, pour se faire connaître, et notamment par les réseaux sociaux. Il y a eu un colloque organisé dans la région parisienne pour réfléchir justement à ces éléments-là et pour voir un peu qu'est-ce qui est fait dans les différentes institutions muséales de cette région. Et notamment, c'est intéressant parce qu'on remarque que la plupart des expériences muséales d'utilisation des réseaux sociaux ne sont pas nécessairement les mêmes. En fait, il y en a qui utilisent pour aller justement chercher du public, stimuler de l'intérêt. Il y en a d'autres qui les utilisent pour faire un service après-vente, entre guillemets, susciter la discussion. Il y en a qui l'utilisent purement pour la promotion, d'autres pour l'information. Mais de manière générale, tout le monde semble être en train de les intégrer. Par contre, on remarque aussi que cette utilisation-là se limite de manière générale, surtout avant ou après la visite, et que malgré la généralisation des mobiles, des portables et autres, eh ben, c'est pas encore intégré dans l'expérience de visite en tant que telle. Et c'est une réflexion que les gens du colloque lançaient, justement, de quelle manière on pourrait coupler à l'expérience de galerie une expérience de médias sociaux. Parallèlement, on parle aussi de la généralisation des outils numériques d'aide à la visite dans les musées. Oui, des audioguides, mais aussi des éléments qui vont beaucoup plus loin, l'intégration notamment de dispositifs mobiles de médiation avec des vidéos, de la narration, du contenu. contenu additionnel et autres qui tendent à se répandre. Mais par contre, on termine cette analyse en disant que oui, ce désir-là, oui, l'utilisation, mais le défi reste aussi de financer tout ça. Et pour l'instant, on compte surtout soit pour des budgets, sur des budgets internes, soit sur le mécénat pour réussir à implanter ce type de mesures-là. Et donc, ça amène une certaine inquiétude face à l'avenir, oui, puisque les musées devront se mettre à la page de plus en plus au niveau technologique, mais les moyens n'y seront pas nécessairement.
Donc, c'est un dossier à suivre?
C'est un dossier à suivre. On le met dans notre immense...
Oui, ça, je pense qu'elle commence à me dépasser. Dieu sait que je suis grande.
Et Julie, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les dernières semaines, on se disait que la Chine était devenue en fait le marché numéro un au niveau de la consommation d'œuvres d'art, donc dans le marché de l'art en général. Par contre, on avait souligné aussi que de manière générale, les acheteurs chinois achetaient des œuvres d'art de leur pays, d'abord et avant tout. Eh bien, le mois de mars est venu renverser un peu cet échiquier dans le marché de l'art, principalement intéressé jusque-là à acheter des objets d'art asiatiques, reflétant la splendeur de leur ancien empire. Eh bien, les Chinois, en mars, ont commencé à jeter leur dévolu sur des œuvres occidentales. On s'en est rendu compte et, bien évidemment, le marché de l'art voit ça d'un œil très, très positif. Par contre, ce que ça annonce aussi, si on se rappelle ce qui s'était passé au début du 20e siècle avec l'entrée des Russes, notamment des Américains dans le marché de l'art, ça avait fait grimper brutalement les cotes de certains artistes comme Cézanne, Van Gogh, Monet, Renoir, Matisse, Picasso, Soutine et d'autres. Alors, est-ce que ça amènera aussi une surenchère pour certaines œuvres, certains artistes?
Mais oui, puis
ça reste à voir. Et lesquels?
Lesquels vont particulièrement plaire aux Chinois?
Que pour l'instant, en fait, ce qu'on sait, c'est que ça dure un mois, que les tendances sont là. Est-ce qu'également, ça pourrait être observable sur un an? C'est l'autre question qu'on peut se poser. Alors, on le met où?
Dans notre pile de dossiers à suivre.
Voilà.
Si on ajoute une couche d'une épaisseur d'une feuille encore.
Et on reste en Chine. En fait, je suis tombé là-dessus. C'est un peu triste. Ai Weiwei, on en avait parlé la semaine dernière.
Ben oui.
La Chine qui le surveillait. Alors, il s'est dit, bien, OK, je vais mettre une cinquantaine de caméras chez moi. Vous pourrez me surveiller plus facilement. Un pied de nez, évidemment, au gouvernement chinois. Eh bien, il a eu un coup de fil du dit gouvernement chinois qui, après 46 heures de fonctionnement des webcams, et ils lui ont dit, ben fermez-les, monsieur, on vous demande de retirer ça, d'enlever ça dans ligne. Donc, on semble-t-il que le gouvernement flairait un peu la blague à leur dépens, et sans raison précise, comme à l'habitude, d'ailleurs, souligné Ai Weiwei dans une entrevue téléphonique, et ben ils lui ont demandé de retirer tout ça sous peine de conséquences.
Fait que finalement, la surveillance va se faire
insidieusement
à son insu.
Voilà, et le monde entier ne pourra pas en profiter.
Hélas.
Et tiens, une petite dernière, en fait, si le temps le permet.
Ben oui, certainement.
On aime bien suivre les enquêtes suite à des morts mystérieuses d'artistes en art visuel. Notamment, on avait parlé, je pense, l'automne dernier de la mort de Van Gogh, suicide de Van Gogh qui serait peut-être un meurtre accidentel.
Par exemple, du mystère de la Joconde aussi, c'est pas une mort, mais on suit ces dossiers-là.
Et là, semble-t-il, en fait, j'essaie de trouver ça rigolo ou vraiment me prendre en plein Da Vinci Code, mais il y aurait une controverse autour de la mort du Caravage.
OK.
Alors, en fait, on ne sait pas exactement comment il est mort.
Le Caravage, c'est un peintre baroque du 17e siècle.
Voilà, je te laissais la possibilité de faire l'analyse éditoriale et biographique, surtout. Donc, ce peintre serait mort dans des circonstances assez troubles. En fait, il y a des gens qui disent qu'il serait mort du paludisme sur une plage de Toscane, décédé sur un lit d'hôpital. On ne sait pas précisément, mais là, il y a un historien de l'art qui s'appelle Vincenzo Pacelli, qui est arrivé et qui a dit, regardez, il est mort assassiné dans un complot par les chevaliers de l'Ordre de Malte.
Alors,
donc c'est un complot à la Da Vinci Code. Là, littéralement, vous irez sur l'aérospatiale.wordpress.com pour voir l'ensemble. Je pense que ça prendrait pratiquement un bon 10 minutes à détailler. Là, mais pour faire une histoire courte, donc le Caravage avait peint un portrait du dirigeant, si on peut dire, de cet ordre de chevaliers-là. Par la suite, il a été intégré dans l'ordre de chevaliers et semble-t-il qu'il se serait querellé avec des chevaliers qui auraient apporté déshonneur à l'ordre et que l'ordre aurait voulu s'en débarrasser.
Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je sais que le Caravage était vraiment très, très bagarreur, querelleur, avec un tempérament assez extrême. Donc,
est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une hypothèse de science-fiction? Ça reste à voir.
Mais
pour l'instant, il y a eu réaction des chevaliers de l'Ordre de Malte qui existent encore et qui ont dit que c'était n'importe quoi.
Oui, mais il n'était pas là il y a plusieurs centaines d'années. Mais en fait, je me demande plutôt sur quoi il s'appuie pour... pour dire des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des preuves, des documents?
C'est surtout, en fait, ça semble être une preuve surtout circonstancielle en fonction de documents, de vocabulaire, d'éléments liés à son décès, de l'absence de documents qui viendraient étayer les autres preuves. Et donc, ça semble être d'abord une preuve circonstancielle ou une hypothèse circonstancielle que Pacelli aurait montée.
Ben, Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et on t'écoute vendredi à La Vie en BD.
Oui, beaucoup d'expos BD d'ailleurs pour le Festival de la bande dessinée de Québec, un peu partout à Québec et dans les bibliothèques. On vous fait l'inventaire vendredi en détail.
Ben voilà, merci beaucoup. On s'en va en pause audio, on écoute Esakai Decagon, la pièce Sunday Afternoon. On vient de constater une petite inversion, en fait, dans les pièces qui ont joué depuis le début de l'émission. La pièce qu'on vient d'entendre, c'était « Intention dévorante » de Bergeron. Et celle qu'on a entendue au début de l'émission, c'était « Esakai Decagon ». Alors voilà, désolé pour la petite erreur, mais dans tous les cas, ces pièces-là sont tirées de la Sixth Compilation qui a été publiée par Electronic Music, une maison, une compagnie d'Angleterre. C'était une suggestion de Simon Roy. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les éditions J'ai vu qui ont lancé avec Dazi Bao une nouvelle collection de monographies. Si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver en ligne sur le site de Vue Photo. Là, il y a un lien pour les éditions. Cette collection-là se veut une sorte de répertoire des incontournables de la pratique actuelle de l'image au Québec. Donc, c'est une série. Pour l'instant, il y en a 4 qui ont été publiées. C'est des petits livres d'environ 6 par 7 pouces, là, d'un format quand même assez sympathique, avec des reproductions d'œuvres quand même de grande qualité. Un papier aussi d'une belle qualité. Je ne crois pas que ça va jaunir avec le temps. Donc, c'est des livres quand même assez bien faits, avec des textes, bien entendu, de présentation. Les éditions sont bilingues aussi. Ça peut être assez pratique. Puis, ça fait... Dave environ entre 75 et 100 pages. Donc, c'est pas quelque chose de nécessairement exhaustif, mais ça fait quand même un petit tour très efficace de la production de ces artistes-là. Et parmi les artistes qui ont déjà leur monographie, on parle de Patrick Altman, avec un texte signé par Sébastien Hudon, qu'on connaît quand même ici très bien à Québec. Il y a une monographie également sur Lynn Cohen, avec un texte de Marie de Brugerolles, sur Evergone, avec un texte d'Eduardo Ralicas, et une monographie sur Bettina Hoffman avec un texte de Sylvain Campeau. Donc, si vous êtes intéressé par les dites monographies, bien, comme je vous disais, vous pouvez aller sur le site vuephoto.org et aller à l'onglet édition. Ce sera disponible. Je crois que c'est même possible de commander en ligne. Plutôt en début d'émission aussi, je vous parlais du dévoilement de la programmation de la manif d'art 6 qui a été fait aujourd'hui au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, plusieurs intervenants de manifestation internationale d'art de Québec se sont succédés pour prendre la parole et pour nous présenter la manif et plus précisément ben, Nicole Gingras qui est la commissaire de l'exposition cette année. En fait, au total, il y a plus de 80 artistes dans tous les lieux de la programmation, donc les centres d'artistes, etc., et bien entendu à l'espace central qui est à l'espace 400e finalement. Et Nicole Gingras aujourd'hui nous parlait quand même avec enthousiasme et excitation de sa programmation sur laquelle elle planche quand même depuis un certain temps. Elle nous parlait du titre double en fait, Machine, les formes du mouvement. Elle disait qu'elle cherchait une thématique permettant d'englober les différentes pratiques en art actuel et cherchait aussi à lier sa thématique à un aspect fondamental de l'existence qui est le mouvement, donc la vie. Donc, les artistes ont vraiment pensé la machine sous plusieurs angles, soit l'angle cinétique, poétique, utopique, absurde, inutile, mécanique, etc. Et il y a même des œuvres qui ne sont pas en mouvement, qui sont vraiment toutes en fixité, mais qui suggèrent le mouvement d'une certaine manière. Il y a, mon Dieu, qu'est-ce que j'allais dire? Je suis un petit peu confuse. Donc, dans le lieu central, qui est à l'espace 400e, il y a 17 œuvres de 16 artistes et de 6 pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques pionniers soit de l'art cinétique ou encore des inventions, des machines, tout ça qui sont répartis dans la manif d'art. Donc, ça donne un côté quand même assez éducatif, ou à tout le moins, c'est ancré historiquement dans les pratiques. Notamment à l'espace 400e, il va y avoir des œuvres de Yann Farley, Mounir Fatmi, Louise Farr et Anne Julien, Arthur Ganson, Rube Goldberg, Joseph Archer, Marla Yadi, Manon Labrec et j'en passe également. J'étais quand même assez contente de voir ça. À Engram, on va pouvoir observer des estampes de Marla Yadi, mais également de Jean Tingly qui est un des précurseurs ou encore le père de l'art cinétique. C'est quand même un artiste européen majeur. Donc, on aura l'occasion de voir certaines de ses œuvres. Jean-Pierre Gauthier présentera Hypoxie à la Galerie des arts visuels. Jacques Sanson nous fera une installation intégrée à l'architecture, à tout le moins dans les vitrines du Grand Théâtre. Un laboratoire aussi, une résidence qui a eu lieu à la bande vidéo avec Jean-François Dugas, Jérôme Minière et Marie-Pierre Normand, donc qui sera présenté à la bande vidéo dans le cadre de la manif. Là, j'en passe. D'ailleurs, vendredi, il y a le vernissage d'Ingrid Bachmann pour son exposition qui est présentée à Materia, donc qui aura lieu dans le cadre de la manif également. Et j'ai envie de terminer en vous parlant d'un projet que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que cette année, les gens de la Manif d'art ont développé une application pour les mobiles, donc qui fonctionne sur iPhone et sur, mon Dieu, j'ai oublié la plateforme pour les téléphones intelligents qui ne sont pas iPhone, mais bon, je pense que vous le savez. Donc, une application gratuite avec donc qui est bilingue, qui va utiliser la géolocalisation, la réalité augmentée et toutes sortes de choses. Bref, on pourra, dans l'exposition, scanner les codes qu'il y aura sur les cartels pour avoir des informations sur les artistes, par exemple. Donc, ça reste quand même assez dynamique et ça fait un lien aussi avec ce dont Raymond Poirier nous parlait précédemment sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les musées. Bien, dans le cas de la manif d'art 6, ce sera fait. Alors, sur ce, on s'en va en pause et au retour, on discute avec Anouk Deloge.
Chaque mardi et vendredi, les soirées de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Semblable à l'image du 89.1, le Bal du Lézard fait dans la diversité colorée. Un lieu de rencontres culturelles branchées, art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les soirées du mardi et du vendredi à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829.
En avril à l'Ampli de Québec, on marque l'arrivée du printemps avec la série En avril, découvre tous les fils de l'écriture. À ne pas manquer, jeu d'écriture avec Reggie Brassard, structure et prosodie avec Mario Chénard, écrire pour l'autre avec Nelson Mainville, et aussi les contrats dans le domaine artistique avec Maître Jean-Claude Pinto, mise en marché 2.0 et l'édition musicale avec Guillaume Désiel. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Les mardis soirs, écoutez CKRL, 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par G. Jumel, l'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Du 11 au 15 avril, laissez-vous tenter par quelques bulles à l'occasion du 25e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Rencontres, découvertes et phylactères sont au menu de cette édition anniversaire. Que ce soit au Salon du Livre, au Musée de la Civilisation, au Cercle ou dans les divers lieux culturels participants, près de 100 auteurs d'ici et d'ailleurs seront à Québec pour participer à une programmation généreuse et éclatée. Visitez le fbdfq.com pour découvrir toutes les activités. Le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, le rendez-vous du 9e art de la capitale.
Ah, te voilà!
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
Voilà, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Avant de poursuivre plus avant, je vous invite à aller faire un tour sur le site l'aérospatiale.wordpress.com pour être au courant des actualités en art visuel, pour trouver les liens pour le téléchargement de Simon Roy pour les propositions de Simon Roy, également les liens pour la revue de presse. Et si vous voulez, ben pourquoi pas, vous pouvez toujours devenir ami avec nous sur Facebook. On est très, très, très inclusif. Alors voilà, la petite plug passée, j'accueille Anouk Deloge. Bonjour.
Oui, bonsoir Julie.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, t'es allée à l'œil de poisson?
Exactement, je suis allée voir une exposition de Cynthia Gérard qui se nomme « Tous les oiseaux sont ici ». C'est mon lancé.
J'étais pendue à télé.
Non, pas du tout. Cynthia Gérard, artiste multidisciplinaire, c'est une artiste qui aborde beaucoup de choses, dont les arts visuels. Dans les arts visuels, peinture, sculpture, elle intègre aussi le son. C'est une poétesse littéraire, elle écrit beaucoup. Elle fait aussi de la performance, donc il y a plusieurs choses qu'elle met en scène. Et c'est ça qu'on voit dans l'exposition « Tous les oiseaux sont ici ». Donc, dans sa démarche, elle décrit sa grande recherche, c'est d'assembler les éléments qui semblent se contredire, dont l'abstrait et la narration, et de créer des espaces qui sont impossibles, dans cet espace où la hiérarchie et la raison n'ont pas le droit d'exister ensemble. Elle crée plusieurs espaces dans un même espace, c'est une peinture à plat, assemblée un peu à la manière d'un collage avec différentes perceptions de l'espace. Donc, c'est vraiment un peu... un peu naïf, on voit que le concept est plus, in, pas plus, j'allais dire intéressant, c'est pour ça que je le dis, que le concept est vraiment, vraiment domine par rapport à la matérialité. Elle dit que la matérialité, on ne transcende pas dans celle qu'elle construit. Elle n'aime pas du tout les peintres professionnels. Elle le dit souvent dans les entrevues. Elle n'aime pas les peintres professionnels.
Qu'est-ce qu'elle entend par peintre professionnel, au juste?
Peintre professionnel. Elle les compare
c'est
à elle les compare à des chirurgiens qui opèrent des corps morts. Elle dit qu'elle amène la tradition de la peinture à la vie de tous les jours, dans une manière très banale. Elle compare même faire de la peinture à faire des morphines. Oh, elle compare le peintre professionnel encore, qui est très territorial dans sa discipline, comme si le peintre était propriétaire de la forêt, elle serait plutôt celle qui fait la randonnée dans la forêt.
OK, donc elle se décrit un peu comme une amateur qui se promène au travers des disciplines, si je comprends bien.
Comme une amateur, là, ou comme en fait, elle revendique même, de la manière que j'ai compris, elle revendique même le statut d'autodidacte.
OK, c'est ça.
Versus, donc, d'un côté, il y a l'attitude sophistiquée du peintre, et de l'autre côté, il y a la touche profane du peintre autodidacte. C'est exactement ça. Ouais. Elle aborde la peinture comme un carnaval. Ses sujets sont habillés de différentes manières pour jouer un rôle. On a l'impression qu'on est devant une pièce de théâtre, donc elle utilise les animaux comme des acteurs. Il y a une impression de narration. Difficile à saisir, je vais l'expliquer plus tard, mais il y a une impression de narration. Elle dit « J'essaie de créer un monde autosuffisant qui nous ramène au livre. » Donc, le livre, j'imagine que c'est sa poésie. Elle ramène un peu faire de la poésie avec ses œuvres. On voit aussi, qu'est-ce que je voulais... Les travaux sont influencés par l'art du peuple, l'art folk, l'art traditionnel, l'art naïf. Les livres pour enfants, l'illustration, puis ces sculptures qui sont utilisées comme des éléments de l'histoire qui intègrent le regardeur, puis qui agrandissent la composition picturale puis l'expérience spatiale. Donc, c'est très large. Donc, je me lance. Quand on rentre à l'œil de poisson, c'est tout est en noir et blanc au premier vue d'œil. Il y a un grand, grand dessin fait sur du papier, il y a des sculptures en papier, tout est en papier, ouais, c'est tout ça. Un peu bric-à-brac papier.
C'est vrai qu'on parle du livre, moi j'ai pensé au papier aussi dans l'exposition. Là.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a un style pourtant graphique très présent, même si on est contre toute représentation bien faite, il y a vraiment quelque chose de graphique. Et puis, sur le grand papier qu'on remarque tout de suite, il y a des formes géométriques qui évoquent un mur de prison qui sépare la salle, qui ça sépare en deux. D'un côté, tout est noir et blanc, de l'autre côté, il y a de la couleur. Donc, du côté noir et blanc, il y a un grand masque noir, un oiseau qui est sur la tête du masque noir. C'est schématisé, on voit vraiment comme un gros cercle avec des trous, les yeux, la bouche, l'oiseau, sa tête. Il y a un long, long serpent qui traverse la salle jusqu'à la porte. Il y a une boîte qui cache un haut-parleur avec des sons. Il y a une bouteille de parfum Dior avec des intestins qui sont peints à l'arrière.
OK, c'est quoi le lien entre toutes ces choses-là?
On essaie de comprendre. Ensuite de ça, il y a des portes... C'est très important. Il y a deux portraits de femmes au mur. On va en reparler plus tard. Mais tout est sans hiérarchie, tout un peu éparpillé. Donc, quand on passe la porte de la prison en arrière...
C'est penché, hein, parce qu'elle est pas haute.
Oui, exactement. On voit des bouteilles qui tiennent le grand papier. On voit vraiment le système d'accrochage. Il y a des sacs en papier, comme des gros sacs. Là, c'est des œufs de Pâques. Là, c'est vraiment des œufs de Pâques qui sont colorés en couleur poudre. Donc, on se demande vraiment, vraiment ce que ça veut dire. On comprend que le cobra, c'est le personnage à porter. On a aussi des réflexions sur l'enfermement. Est-ce que les oiseaux sont enfermés? Est-ce qu'ils essaient de fuir? Parce qu'on voit des oiseaux à côté d'une prison, donc on essayait nécessairement de comprendre s'ils sont libres, sont prisonniers. D'un côté, il y a de la couleur, de l'autre côté, il n'y en a pas. Les œufs sont gardés dans la prison. Donc, c'est vraiment très, très... c'est vraiment très intriguant, on essaie de comprendre.
Surtout considérant qu'elle refuse la narration, donc c'est comme si elle jouait à nous dérouter. Aussi,
elle refuse pas nécessairement la narration, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle elle fait comme si c'était une narration, mais on ne comprend pas.
Mais
on a vraiment l'impression d'être dans une narration, vraiment, vraiment. Elle a dit même que c'est comme une pièce de théâtre, puis le grand tableau, c'est comme une tentative d'immersion. On rentre dans la peinture. Le grand tableau, on peut voir en arrière, les éléments sont disposés, c'est comme si ça faisait partie du tableau, mais elle les a mis dans l'espace. Donc, tout ça fait en sorte qu'on se demande vraiment, bon, est-ce qu'on nous raconte quelque chose ou est-ce que la peinture est le sujet même de l'exposition? On parle de métaphores, on multiplie les symboles, les éléments de composition, comme je vous ai dit, sont dans l'espace. Puis on y trouve deux poétesses qui nous guident. Ils sont supposés nous guider. Moi, quand on sort de là, on ne comprend pas, mais là, on va chercher sur Internet, on essaie de comprendre. Les deux poétesses sont supposées nous guider à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ce que j'ai pu comprendre...
Dans les deux portraits, donc, les deux femmes là, dans les cases?
Oui, c'est okay. Ça, exactement. Donc, ça, c'est supposé être un peu la réponse d'après ce qu'elle dit de son exposition. Donc, moi, je fais nos recherches parce qu'il n'est toujours pas écrit... il est écrit « C'est qui? » Mais on ne sait pas « C'est qui? » Donc, excusez mon allemand, mais premièrement, il y a Elfried Genelec, qui est autrichienne. Et puis, il y a aussi une Américaine, Emily Dickinson. Emily Dickinson, je vous la décris, c'est une femme qui a vécu au 19e siècle. On la décrivait très excentrique. Elle avait le dégoût de recevoir des gens chez elle, de la visite. Donc, elle n'avait jamais de visite. Et la plupart de ses amitiés, c'était des amitiés par correspondance. Donc, elle s'est liée d'amitié avec un critique littéraire qui s'appelait M. Higginson. Et en lui demandant « Est-ce que mes vers sont vivants? » Et puis, on commençait à se faire une correspondance comme ça.
Okay.
Et puis, on disait que ce qu'elle écrivait, c'était toujours... elle se complaisait dans des autodescriptions théâtrales et mystérieuses. Elle dit « Je suis petite comme un roitelet. » Un roitelet, c'est un oiseau. « Je suis petite comme un roitelet et mes cheveux sont épais, comme la bogue du châtaignier. Et mes yeux sont comme le sherry que laissent les invités au fond du verre. » Donc, c'est une femme assez particulière, comme on l'a décrit. Et ensuite de ça, Elfried Genelec, l'Autrichienne, elle est plus contemporaine. Elle se voit attribuer en 2004 le prix Nobel de la littérature pour le flot de voix et de contre-voix dans les romans et ses drames qui dévoilent avec une exceptionnelle passion langagière l'absurdité et le pouvoir autoritaire des clichés sociaux.
OK. J'aime le titre, le succès des ombres.
De prix Nobel, ben c'était la description de pourquoi elle a eu le prix Nobel. Puis on dit de cette Autrichienne qui était très difficile à comprendre, c'était quasi illisible. Donc, déjà, ça donne une bonne compréhension plus de l'œuvre. C'est que il y en a une des deux qui se complaint dans des autodescriptions théâtrales et mystérieuses, et l'autre qui est très absurde, puis très difficile à comprendre. Donc, je me dis, OK, ça a du sens.
Ça se situe, là.
Ça me titille. Donc, tout en continuant mes recherches, je comprends aussi qu'il y a plusieurs éléments dans l'exposition qui sont humanisés. Il y a des tripes comme des intestins qui sont peints sur la bouteille de parfum, comme si ça devenait un humain, un corps.
Ouais.
Le masque est portable, il y a des sculptures portantes aussi. On parle de carnaval quand elle parle non seulement de l'artiste, mais aussi le fait d'être une artiste. Elle se carnavalise en tant qu'artiste. Et un texte, un poème qui est écrit aussi quand on rentre dans l'exposition. Je vais le lire en anglais, je vais le traduire. C'est elle qui l'a écrit. « I am a snake, a bird, a legless wonder in colorful scale, undulating my way through like a drunken paintbrush.
Ouais. »
Donc, je suis un serpent, un oiseau, un vagabond sans jambes en écailles colorées, vallonnant à travers mon chemin comme un pinceau ivre. Donc, j'ai l'impression qu'elle se présente comme étant ses sculptures. Et puis, dans sa performance, qu'on ne peut voir que sur Internet, qui était le soir du vernissage, elle faisait une performance.
Avec le long
serpent, oui. On peut voir qu'elle décrit sans cesse son poème traite de « I am a snake, je suis le serpent, je suis l'oiseau dans les branches, je suis la branche que l'oiseau... » Là, ça finit, c'est comme un peu...
C'est comme l'arbre dans ses feuilles.
Exactement, ce que je cherchais, oui, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Donc, j'ai vraiment eu l'impression que son exposition, on était dans sa tête, puis elle nous parlait, elle nous racontait... pas elle nous raconte une histoire, en fait, elle nous présente quelque chose.
Ou comme si on suivait le flot de ses pensées, puis le flot des pensées n'a pas nécessairement une progression linéaire non plus.
Non, oui, exact. Justement parce qu'elle dit que ces éléments n'ont pas de hiérarchie.
Ouais.
Donc, justement, c'est un peu éparpillé. Il y a ça là, il y a ça là. On essaie vraiment de comprendre, mais bon, on se comprend.
C'est ça.
Donc, j'ai vraiment eu l'impression quand... en fait, la seule chose qui nous aidait à comprendre, j'ai vraiment eu l'impression que c'était les deux poétesses qui disaient l'autodescription et l'autre un peu absurde. Donc, j'avais l'impression finalement qu'elle nous écrivait un livre de manière... visuelle.
Puis qu'elle nous forçait d'une certaine manière ou qu'elle nous incitait à aller voir qui sont ces femmes pour comprendre, donc à poursuivre la réflexion au-delà de l'expérience la salle.
Il faut définitivement faire des recherches parce que sinon, si on sort de là, je trouve que moi j'ai eu l'impression d'être sortir un peu bredouille dans le sens que j'avais plein d'éléments, plein d'indices, puis je savais pas quoi faire avec, tu sais. Ouais. C'est avec mes recherches que j'ai pu comprendre, puis en la regardant en entrevue, là, j'ai pu comprendre un peu. Mais c'est vraiment une exposition, c'est très, très intriguant, très mystérieux.
Éclaté aussi.
Exactement.
En même temps.
Oui. Donc, tous les oiseaux sont ici. À L'œil de poisson, c'est présenté du 23 mars au 22 avril dans les grandes galeries.
Luc Deloge, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On se revoit dans environ un mois. Donc, habituellement, c'est aux 4 semaines. Ou c'est quoi? On est le 2e mardi du mois, c'est ça?
On va se voir bientôt.
Voilà. Donc, on se voit en mai. Et sur ça, on s'en va en pause audio. On écoute Mitochondriac d'Inappropriate King Live sur les ondes de CKRL. Pièce Mitochondriac, c'est tiré de l'album A Sixth Compilation, une suggestion de Simon Roy. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis encore. Vous pouvez trouver les liens sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Et à l'instant, on accueille dans nos studios Besma Boukri. Bonjour.
Allô.
Tu nous présentes en ce moment à l'établi Déresonance. Peux-tu nous présenter un peu l'exposition?
Déresonance, c'est une installation cinématographique, en fait, et sonore. Ça parle. En fait, c'est une invitation aux spectateurs à venir un peu se confondre à travers deux solitudes, donc deux personnages qui se font face, qui sont, je pourrais dire, captifs chacun d'une géographie qui leur est spécifique. À travers tout ça, il y a un dialogue qui s'instaure ou qui est à deviner, en fait. C'est plein de propositions.
Tu parles de deux solitudes qui se font face parce que vraiment, tu as filmé une femme et un homme indépendamment, puis tu as placé les écrans face à face, ce qui fait qu'eux ne sont pas face à face, mais nous, on se trouve comme entre les deux. Finalement, ça a pour effet d'accentuer la solitude dans les vidéos.
Oui, l'idée, c'était c'était de faire un parallèle, mais de les isoler aussi pour leur donner chacun, en fait, assez d'espace pour qu'ils puissent vivre. Donc, qu'ils puissent... qu'il y ait une réverbérescence, en fait, de leur espace, puis aussi un travail sonore. Donc, il y a trois... Donc, oui, deux écrans qui se font face, mais il y a trois tracks de son, en fait, qui ont été travaillés indépendamment, mais pour être superposés en salle. Donc, la position des caisses de son forme une espèce de 360, ce qui a pour effet de texturer aussi d'une façon différente selon le positionnement dans l'espace. Donc, voilà, l'idée de les distancer, en fait, c'était vraiment pour effectivement les isoler, mais aussi leur donner chacun tout l'espace qui leur revenait.
Puis en même temps, mais on peut pas, comme spectateur, s'empêcher de faire le jeu de la comparaison. Moi, je sais que des fois, je regardais d'un côté, après ça, je regardais de l'autre, j'avais tout en peur de me manquer quelque chose, mais de voir aussi que malgré leur solitude, il y a une progression dans l'installation, puis ils vivent sensiblement le même genre de choses en même temps, même si ça s'incarne différemment.
Absolument. En fait, je trouvais ça intéressant de mettre en parallèle différentes situations qui ont chacun leur... en fait, chacun des personnages a une raison qui peut lui être propre, en fait, de se retrouver dans cette solitude-là. Par contre, il y avait peut-être une façon que je voulais un peu plus vaste ou peut-être humaniste, je ne sais pas, ou universelle, de mettre en parallèle de la solitude pour, en fait, peut-être en faire ressortir qu'il y a quand même quelque chose d'assez similaire dans, peu importe les raisons, dans la façon de vivre cet état-là.
Oui, bien, c'est universel. Là. Je veux dire, moi, je les voyais, puis je préférais à moi-même ou à ces moments où je me suis retrouvée seule avec moi-même, soit en attente, dans le fond. Là.
Voilà. Ou en moment de nostalgie aussi. Ouais. Je pense qu'il y a la... En fait, aussi, j'avais envie de... La solitude, pour moi, en tout cas, un peu la réflexion par rapport à cette œuvre-là, c'est que c'est souvent lié, à mon sens, à des choses qui surgissent du passé ou une incapacité à avancer. Ouais. C'est comme s'il y a une espèce de dichotomie avec le présent, en fait, puis c'est un peu là-dedans que je les ai placés.
Comme en décalage, là, d'une certaine manière. Tes deux personnages sont vraiment campés dans des univers presque diamétralement opposés. Tu voulais comme peut-être camper un peu leur personnalité par les décors dans lesquels ils sont, par leur environnement?
C'est une exploration esthétique aussi à travers ça. Mais je dois dire que les univers ont été vraiment inspirés par les non-acteurs, en fait, qui sont des amis à moi. Donc, j'ai travaillé à partir de leur esthétique aussi. Donc, il y avait quelque chose d'indissociable. Ce n'est pas un décor construit avec quelqu'un qu'on met dedans. C'est un décor qui est construit en pensant, en étant inspiré, ouais. En fait. Après, bon, je m'approprie leur esthétique, puis là, ça devient une fabulation, puis un récit qui m'est propre. Mais, donc, effectivement, je pense que, bon, à partir de là, j'ai eu envie de jouer aussi, puis d'aller au-delà de ce qui était pour vraiment présenter un univers qui est peut-être plus chaud, plus terreux, plus masculin, un autre qui est plus froid, qui est plus aquatique, féminin.
Vaporeux, aérien aussi, là. Mais dis-moi, Besma Boukri, toi, t'évolues là, dans le monde du cinéma, dans le monde des arts à Québec depuis un certain temps. T'es directrice artistique, t'as fait vraiment plusieurs choses, mais Des Résonances, c'est ta première œuvre, je crois, que tu te présentes là, plus officiellement.
Absolument, oui.
C'est quand même, j'imagine, c'est beaucoup de travail, là. Ça a dû être deux tournages, une équipe de travail, tout ça. Comment t'as conjugué avec ça, avec ce projet-là, pour une première offre? Je trouve que c'est quand même d'une grande ampleur.
Oui, effectivement, ça, par moments, je me suis trouvée mégalomane parce que j'ai aussi en fait pris beaucoup de... Ben, le département artistique, là, évidemment, j'ai fait la direction artistique là-dessus. Ben ouais. Initialement, c'était un projet de directrice artistique, là, je pourrais dire. Okay. Là, c'est vraiment ce qui a ressurgi. Évidemment, ben, j'ai eu la chance d'être entourée de très précieux collaborateurs, des gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler aussi. Donc, une équipe en qui j'avais confiance aussi, c'est sûr que ça, c'est vraiment un atout qui est précieux. Un univers dans lequel le tournage est quand même quelque chose avec lequel je deviens de plus en plus à l'aise. Disons que ça fait à peu près 5 ans que je fais du tournage professionnellement à Québec. Donc, c'est quand même un univers, un langage ou un espace avec lequel, dans lequel je suis habituée d'évoluer. Mais sinon, effectivement, là, je pense qu'il y avait j'avais une urgence aussi de faire quelque chose. Donc, ça a été... j'ai pris le taureau par les cornes.
Tu avais dans le fond la volonté, vu que tu es directrice artistique. Mais qu'est-ce que tu faisais d'autre? Là, j'ai pas la liste, là, mais tu as quand même fait pas mal de choses là, dans le milieu des arts aussi.
Ben, en fait, oui. Disons que depuis 2001 à peu près, j'ai commencé en 2001 à travailler, à faire de la confection de costumes pour des pièces de théâtre. Donc, j'ai touché plus au milieu du théâtre. Tranquillement, j'ai été introduite à mon premier plateau de tournage à travers un projet d'une publicité quand même assez d'envergure. Là. Puis, à ce moment-là, je pense que ça a été la grande révélation pour moi. Là, que c'était, je me suis vraiment littéralement sentie comme Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est ça. Je pense que tranquillement, j'ai un peu adapté mon parcours. Je suis assez autodidacte aussi. Je suis retournée aux études. J'ai étudié un certificat en études cinématographiques aussi. Donc, c'est comme un amalgame, en fait, de tout ça, là, voilà.
Et j'imagine aussi que le fait que tu aies touché à toutes sortes de disciplines a dû vraiment t'aider beaucoup à travailler sur des résonances, là, de manière générale. Donc, tu connaissais pas mal les aspects d'un tournage ou de la création.
Oui, tout à fait. Puis, je pense que c'est ça, l'idée... Les collaborateurs aussi, la façon de traiter les choses, la meilleure façon, les meilleures personnes avec qui collaborer aussi, parce que je tiens à le répéter, là, j'avais jamais été en mesure de faire un projet pareil sans tous les collaborateurs, toute l'équipe qui m'entourait. Donc, oui, je pense que c'est vraiment... Ça s'est fait tranquillement. En fait, ça s'est construit au fil peut-être de la dernière année ou des deux dernières années. Puis c'est effectivement la suite logique, je pense, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Est-ce que tu as d'autres projets en réflexion comme ça?
Oui, des projets sur lesquels j'avais envie de travailler avant aussi ce projet-là, en fait, que j'avais déjà en tête. Des nouveaux projets aussi, parce que heureusement, ce qui est intéressant, c'est que à rencontrer des gens, à découvrir des choses, à développer différentes. En tout cas, ça a été un projet vraiment une belle expérience, riche et très inspirante aussi. Donc, pour l'instant, c'est des projets que je garderai, je tiendrai secret, mais peut-être une prochaine invitation.
Ben oui, hein, ce sera à suivre. Ben, Basma Boukri, merci beaucoup.
Merci.
Donc, on peut aller voir l'installation vidéo des résonances à l'établi. C'est jusqu'au 14 avril. On s'en va en pause audio. On écoute Longstone avec Pavilion sur les ondes de CKRL. We'll be right back. de A Sixth Compilation. C'est une suggestion de Simon Roy. On peut trouver la compilation gratuitement sur le site d'Electronic Music ou passer par l'aérospatiale.wordpress.com. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission, mais avant de terminer, je vous invite à quelques petits événements cette semaine. J'en ai pu parler un peu plus tôt, vendredi à 17h, c'est le vernissage d'Ingrid Bachmann à Materia. Jeudi, on recule d'une journée, il y a une présentation publique des résultats de la résidence de recherche d'Edith Brunette, donc qui s'intitule « Exclusion, fétiche et euphémisme politique du vocabulaire de l'art actuel ». C'est à la Chambre Blanche, bien entendu, à compter de 18h. Vendredi après-midi, de 13h à 16h, c'est le vernissage d'arbres d'avril au Jardin Saint-Roch, donc sous une sorte de tente là, qui sera installée à la place de l'université. Puis vendredi à 19h, c'est le vernissage de « Je n'utiliserai pas mon veto contre toi » d'Oscar India Romeo et Hugo Nadeau à la salle d'exposition du pavillon des Jardins. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous laisse en compagnie de Gilles Chaumel avec Folk d'Amérique.